Paul Féval, Les Habits Noirs, tome 3, deuxième partie, Mademoiselle Saphir. Chapitre 1er, Médor, dernier avaleur. C'était d'une voix ferme que Madame de Chavès avait exprimé sa volonté de voir Saphir. Hector ne s'attendait pas à cela. Il changea de couleur. Son amour était grand, mais il avait l'ombrageux orgueil des enfants de son âge. « Y pensez-vous, madame ? » observa-t-il. « La duchesse de Chavès en ce lieu ?»« J'y pense, » répondit-elle. « Je le veux, ne me refusez pas. Je suis gai, j'ai le cœur gonflé par je ne sais quel espoir. Je vous le répète, il y a aujourd'hui quelque chose de bon dans l'air. » Et comme Hector hésitait encore, elle ajouta « À votre tour, ne vous moquez pas de moi. Cette somnambule m'a dit des choses qui m'ont frappé. Je ne croyais pas à tout cela hier, mais enfin, qui sait, si la somnambule retrouve le petit bracelet, comme elle affirme en être capable, pourquoi ne retrouverait-elle pas l'enfant ? Hector ne résista plus. Ils traversèrent les pelouses du Rain Lake et prirent la grand-rue de Passy. Le soleil inclinait déjà vers l'horizon quand ils franchirent le pont qui mène à l'esplanade. Comme ils ne pouvaient pénétrer la fête avec leurs chevaux, ils prirent l'avenue latérale et gagnèrent la rue Saint-Dominique du Gros-Caillou pour confier leur monture à un marchand de vin, puis ils redescendirent à pied sur l'esplanade. Ce n'était pas jour de grande recette. Il y avait, néanmoins, comme c'est la coutume, bon nombre d'amateurs autour de certaines baraques, tandis que d'autres restaient dans la plus complète solitude. Au centre de la fête, parmi les établissements les plus « conséquents » pour employer le style de notre ami Échalot, le théâtre de Mademoiselle Saphir dressait orgueilleusement sa façade orientale, ornée des plus audacieuses peintures qui fussent jamais sorties des fameux ateliers cœur d'acier. On voyait là tout ce qui peut se voir en fait de prestige, illusion, tour d'adresse et de force, bêtes sauvages, phénomènes athlétiques et autres attractions. Au premier plan du principal tableau, Mademoiselle Saphir, en costume de sylphide, avec des ailes de papillon, se tenait sur la pointe d'un seul pied, en équilibre au milieu d'une corde tendue. Jugez si ce malheureux Hector avait ses raisons pour s'opposer aux caprices de Madame de Chavès. Et Saphir, son jeune amour, le rêve de ses 20 ans, caricaturé par le prodigieux pinceau de Monsieur Gondrequin militaire, le seul peintre qui ait dépassé la gloire de Raphaël, selon l'opinion de messieurs les artistes en foire. Monsieur Baruc, son émule, seconde étoile à l'atelier Cœur d'acier, avait peint sur le même tableau et à divers plans, avec cet inimitable talent qui se passe à la fois du dessin et de la couleur, le jongleur italien, la panthère africaine sautant à travers un cerceau, un oriole chinois dansant sur des bouteilles, et le combat d'un serpent de mer contre un crocodile de la Polynésie. Dans un coin, Saladin avalait encore des sabres, tandis que Madame Canada se faisait casser des silex sur l'abdomen, non loin du Christ crucifié entre ses deux larrons. À l'horizon, par-dessous la corde de Mademoiselle Saphir, on apercevait une chasse aux tigres dans les jungles du Bengale, tandis que sur la droite, l'empereur Napoléon III rentrait dans sa bonne ville de Paris, après la paix de Villafranca. Dans les nuages, à droite, un médaillon, coupé en deux, représentait d'un côté la prise de Pékin, de l'autre des scènes de la tour de Nesle. À gauche, dans les nuages aussi, un pareil cartouche offrait au regard des amateurs une messe de minuit à Saint-Pierre de Rome et l'incendie de la Villette. Cela paraîtra invraisemblable, mais il y avait encore dans ce même tableau une femme à barbe, entourée de gendarmes et de membres de l'Académie des sciences qui lui venaient au nombril, un jeune homme portant sa tête au milieu de l'estomac, un taureau ballottant un espagnol au bout de ses cordes, et une vierge cataleptique qui se soutenait horizontalement dans le vide, retenue seulement à un clou, à un crochet par l'extrémité de son petit doigt. Il n'y avait que l'atelier cœur d'acier, dont nous avons écrit ailleurs la grande et véridique histoire, pour produire ainsi des tableaux dont chaque pouce carré a son intérêt et son utilité. Ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs. Messieurs Baruc et Gondrequin militaire se chargent en outre de remettre des pièces aux vieux tableaux d'église détériorés par les voyages ou le temps. Tout était en mouvement sur l'estrade du théâtre de Mademoiselle Saphir. Échalot, en paillasse, tenait le porte-voix, et Madame Canada, coiffée d'une perruque d'étoupe toute neuve, battait la caisse. Mais à part l'excellent couple, le bossu Poquet dit Atlas et le géant Cologne, jouant l'un du tambour, l'autre de la clarinette, le personnel de l'ancien théâtre français et hydraulique s'était magnifiquement transformé. Il n'y avait pas moins de 6 musiciens à l'orchestre, 3 habillés en lanciers polonais, 3 habillés en turc. Il y avait 4 demoiselles portant des costumes d'odalisques, un pitre déguisé en marquis et 5 ou 6 premiers sujets dont chacun avait, dans sa spécialité, une réputation plus qu'européenne. En outre, 2 tam-tams de grande taille grinçaient avec rage, tandis qu'une petite machine à vapeur poussait des sifflements à faire saigner les oreilles. C'était complet. Cela rejetait dans l'ombre les plus éclatantes illustrations de la foire. La famille Cocherie et l'épique Laroche, dont les établissements voisins semblaient de vulgaires cabanes auprès du Palais Canada. Au moment où le comte Hector et sa compagne traversaient la foule, Échalot annonçait dans son porte-voix que la grande représentation de Mademoiselle Saphir allait commencer. Quoique légèrement indisposée, ajouta-t-il, elle n'a pas besoin de l'indulgence du public. Hector avait le rouge au front et des gouttelettes de sueur tombaient le long de ses tempes. Il avait fait en vérité tout ce qu'il avait pu pour s'opposer à la fantaisie de sa compagne, proposant de revenir le soir et quand au moins Mademoiselle de Chavès aurait pu quitter ce costume d'Amazone qui faisait d'elle le point de mire de tous les regards. Mais la belle duchesse s'était montrée inflexible. Elle avait répété ce mot qui, pour les femmes, remplace toute explication « je le veux ». Madame la duchesse de Chavès était pour le moins aussi émue que son cavalier qui sentait frémir son bras. La foule s'engouffrait dans la baraque en vogue avec un entrain merveilleux au son d'une musique impossible. Madame de Chavès cherchait à entraîner Hector qui ne résistait plus, opposant seulement à l'impatience de sa compagne la force d'inertie. Une véritable cohue les séparait encore de l'estrade. Le reste de la place était à peu près désert. L'établissement Canada monopolisait littéralement le succès. À une 50aine de pas de là, dans un autre rang de baraques plus pauvres, une baraque, la plus misérable de toutes, s'était formée de quelques planches mal jointes qui chancelaient. Cette baraque n'avait point de tableau, elle portait seulement une enseigne écrite au cirage et qui disait « Grands exercices de Claude Morin, dernière à valeur de sabre ». Le pauvre diable mal vêtu et dont la figure amaigrie disparaissait presque sous la masse énorme de ses cheveux crépus, était assis par terre devant cette cabane, la tête entre ses 2 genoux. Il jetait un regard mélancolique sur le victorieux établissement des Canadas qui lui faisait place. Personne dans Paris ne connaissait ce pauvre diable, et le lecteur lui-même ne se souvient sans doute plus que Claude Morin était le véritable nom de Médor. Madame de Chavès et Hector lui tournaient le dos, placés qu'ils étaient entre son bouge et l'estrade Canada. En ce moment, une voiture fermée s'arrêta devant le saut de loup des Invalides. 2 hommes en descendirent et se dirigèrent au plus épais de la foule. Ils étaient tous les 2 d'un certain âge. Leur tournure et leur costume tranchaient parmi ce rassemblement de petits bourgeois. L'un d'eux, fortement basané, rabattait un chapeau à large bord sur sa chevelure d'un noir mat où tranchaient quelques mèches grisonnantes. Le visage de l'autre avait une blancheur d'ivoire. Ses cheveux et sa barbe, noirs mais luisants comme de la soie, étaient arrangés avec une prétentieuse coquetterie et avaient le reflet des choses teintes. Le premier semblait désireux de se cacher, l'autre portait haut sa figure souriante, contente, éclairée par un regard brillant et froid. C'était le second qui menait le premier. Il perça la foule à grands coups de coude, répondant aux murmures par de gracieux saluts et d'abondantes excuses débitées avec l'accent italien. En manœuvrant ainsi, il parvint à guider son compagnon, moins actif, jusqu'au pied de l'estrade. En cet endroit, il lui dit, avec un obséquieux sourire qui montra une rangée de dents plus blanches que celle d'un hippopotame, « Monsieur le duc, nous voici arrivés à bon port. Il n'y a point de grand plaisir sans quelques petites peines. Votre Excellence va juger par elle-même, et je parierai ma tête à couper qu'elle sera contente de ma trouvaille. » Monsieur le duc ne répondit que par un geste d'humeur bourrue. Madame de Chavès et son cavalier n'étaient pas à plus de 10 pas de ce couple. Hector, qui marchait en avant, fit un mouvement de recul et, comme la duchesse s'en étonnait, elle étendit silencieusement le doigt vers l'escalier que monsieur le duc commençait à gravir sur les traces de son compagnon. Le regard de la duchesse avait suivi ce geste, elle ne put retenir un léger cri. Les deux hommes se retournèrent. Madame de Chavès s'était baissée prestement et croyait avoir évité le regard que l'on dardait vers elle, mais quand l'homme au teint basané qu'on appelait monsieur le duc se reprit à monter l'échelle, il avait aux lèvres un sourire singulier, le sourire que Saladin avait vu quelques heures auparavant derrière les persiennes demi-fermées de l'entresol faisant face au portail de Chavès. « Eh bien ?» demanda le radieux personnage dont la face d'ivoire s'épanouissait maintenant au sommet de l'estrade. « Montons-nous ?» Le duc le rejoignit de son pas plus lourd et dit en lui serrant le bras, « Ami Guilloja, quand même nous perdrions notre temps à l'intérieur de cette masure, je ne serais pas venu ici pour rien. » Toute la personne de ce Guilloja avait un éclat particulier et blessant, depuis le cuir verni de ses bottes jusqu'aux reflets métalliques que jetaient ses cheveux teints. Il fixa sur le duc ses yeux clairs et froids comme la cassure d'une barre d'acier, et son regard interrogea, mais le duc ne jugea pas à propos d'en dire davantage. C'était leur tour d'entrée, et ils entrèrent. Madame de Chavès était restée immobile et comme pétrifiée. Hector attendait sa décision sans mot dire. Sans mot dire aussi, elle lui serra la main et l'entraîna en sens contraire de ce mouvement général. Cela les fit passer devant la misérable cabane de ce pauvre Médor qui, lui aussi, avait ses yeux écarquillés par l'étonnement pour avoir vu monsieur le duc passer le seuil du Théâtre Canada. Médor avait de la mémoire, il se souvenait surtout de ce qui touchait au grand événement de sa vie, le vol de Petite Reine. D'un coup d'œil, il avait reconnu le milord de la rue Cuvier. Il y a les favoris du succès, il y a les gens que la chance contraire poursuit et accable toujours. Ceci soit dit sans donner gain de cause à la masse des impuissants qui se plaignent du hasard. Médor, depuis 14 ans que nous l'avons quitté, avait fait de son mieux dans la mesure de ses moyens assez bornés. Sa profession de chien de berger, sous les ordres de Madame Noblet, était bien véritablement à la hauteur de son intelligence et mettait dans tout son jour sa qualité principale, la fidélité. Il y avait du chien dans ce bon garçon, et son ambition n'allait pas au-delà de celle des chiens, boire à sa soif, manger à sa faim, et dormir son content. Il avait eu pourtant dans sa jeunesse une émotion poignante et une profonde affection. Nous voulons parler de son dévouement à la douloureuse folie de la Gloriette, pleurant et se mourant près du berceau de sa fille. Ce serait peine perdue que d'analyser un sentiment pareil. Y avait-il ici de l'amour, dans l'acception habituelle du mot? Je le pense un peu, puisque le premier mouvement de Médor avait été de souffrir du retour de Justin. Médor était donc jaloux, mais le chien le sont aussi. Je n'ai jamais admis l'opinion de ces précieux, professant que l'amour d'une pauvre créature, comme était Médor, peut ternir l'éclat de la plus éblouissante des femmes. Chacun a le droit de contempler les astres, et ce ne sont pas ces humbles adorations qui déshonorent. Il est certain d'ailleurs que ce mot « amour » a toute une échelle de significations diverses applicables à l'échelle des intelligences et des caractères. Médor se serait fait tuer pour la Gloriette avec plaisir, voilà ce qui est certain. Il avait pris en affection Justin, diminué et vaincu, à cause de la Gloriette. Et quand il avait trouvé un jour Justin ivre d'absinthe, c'est-à-dire noyé dans le plus misérable, dans le pire des découragements, Médor s'était dit « En voilà un qui est perdu pour notre besogne, je tâcherai de faire tout, moi seul. » La besogne de Médor c'était de retrouver Petite Reine. Cette ardente volonté, née du désespoir de Lily qu'il avait vue de si près, avait survécu en lui à la disparition même de la jeune mère. Les idées naissaient en lui difficilement. Quand elles étaient nées, elles ne mouraient point parce que d'autres idées ne venaient point les étouffer ou les chasser. D'ailleurs, il pensait peut-être vaguement que Petite Reine, retrouvée, rappellerait Lily comme un aimant attire le fer, et quand l'espoir de revoir Lily lui venait, ses pauvres yeux se mouillaient de larmes. Il cherchait depuis 14 ans, comme il pouvait. En cela comme en tout, il n'avait jamais eu qu'une idée, et il la suivait patiemment, malgré l'inutilité de ce long effort. Il s'était dit, dès les premiers jours, ajoutant son propre instinct aux conjectures de la police, que Petite Reine avait dû être enlevée par des saltimbanques. Pour la retrouver, le moyen le plus simple était donc de faire la revue des saltimbanques de France, et pour en arriver là, le plus court chemin était de devenir soi-même saltimbanque. Des calculateurs d'élite et Saladin lui-même n'auraient pas trouvé mieux. Seulement, il y a une large distance entre le premier jet d'un plan et son exécution. Or, notre ami n'avait pu donner à l'exécution de son plan que l'intelligence qu'il avait. Voilà pourquoi nous avons parlé de mauvaise chance. Entre les mille variétés de travaux qui gagnent le pain des saltimbanques, notre pauvre Médor avait choisi le plus malade, celui qui s'en allait mourant. Il était devenu avaleur de sabre au moment où Saladin, un virtuose pourtant dans sa partie, désespérait déjà de l'avalage. Mangeant du pain sec et recevant plus de coups de pied que de gros sous, Médor était parvenu cependant à faire son tour de France. Il avalait les sabres très mal, le public mécontent le huait, mais il était si bon et si malheureux que les chefs de troupe le gardaient pour battre les banquettes ou nettoyer les lampes. Un mathématicien seul saurait calculer le nombre de lieues qu'on peut parcourir en poursuivant ainsi quelqu'un de ville en ville. Médor, qui n'était pas mathématicien, se dit pourtant au bout d'un certain nombre d'années, « Puisque j'ai été partout et que je n'ai pas rencontré Petite Reine, c'est qu'elle est introuvable ou morte. » Il revint alors à Paris et se mit sur les traces de Justin, le seul être auquel il s'intéressait désormais. Justin avait disparu, ou plutôt il était tombé si bas que Médor ne le trouva plus dans la pauvre sphère où il se mouvait lui-même. Quand il le rencontra enfin un jour, par hasard, face à face, il ne le reconnut pas. Justin, l'homme du château, monsieur le comte de Vibray, avait une hotte sur le dos, un crochet à la main, et chancelait sous le poids de son ivresse chronique. Médor voulut le relever dans la mesure de ce qu'il pouvait pour cela, mais Justin consentit seulement à se laisser payer à boire. Ce n'était plus un homme, on avait pitié de lui parmi les chiffonniers. Et cependant quelque chose restait en lui de sa vie passée. Dans le trou où il dormait, sur quelques brins de paille, il y avait 4 ou 5 volumes qu'il lisait et relisait quand il avait une heure lucide. Parmi ces livres, dont la plupart étaient imprimés en latin, se trouvait un livre français, « Les 5 codes ». Justin l'avait tant lu et relu que les pages se détachaient comme les feuilles mortes qui tombent à l'automne. Les chiffonniers disaient que, si on avait pu trouver Justin à jeun, il n'y aurait pas eu son pareil parmi les avocats de Paris. Ils ajoutaient que, quand Justin n'était ivre qu'à demi, c'était encore un gaillard de bien bon conseil. Sa réputation, à cet égard, était considérable, non seulement parmi les chiffonniers, mais encore dans la classe des saltimbanques et artistes forains, dont il s'était rapproché à différentes reprises, mû peut-être par le même instinct que Médor. Il l'appelait le père Justin, quoiqu'il fût jeune encore, au dire de ceux qui le connaissaient de longue main, il avait toutes les apparences de la vieillesse. Depuis un an, Médor, poursuivi par le discrédit croissant où se perdait l'avalage du sabre, ne trouvait plus rien dans les baraques. C'était bien à contre-cœur et par nécessité qu'il avait fini par s'établir à son compte. Quelques planches, empruntées à son ancien immeuble aérien et de vieux clous, lui avaient suffi pour bâtir l'étroite cabane, trop large encore pour son commerce abandonné. Il travaillait comme un nègre, emportant sa maison sur son dos, de fête en fête, dans les villages qui environnent Paris, et récoltant de loin en loin quelques sous, quand 3 ou 4 amateurs obstinés de ce grand art, décédés comme la tragédie, daignaient passer le seuil de son taudis. Il se consolait néanmoins en disant qu'il était désormais le premier et le dernier avaleur de France et de Navarre, ce qui devenait vrai exactement par le défaut de concurrence. Médor avait un autre motif d'orgueil. Il était le seul homme que le père Justin admit dans son trou. Médor, il est vrai, n'y allait jamais sans porter quelque chose à boire, mais il renouvelait ses visites aussi souvent qu'il le pouvait. Était-ce la conversation abrutie du misérable ivrogne qui l'attirait? Non. Que Justin eut la fièvre de l'alcool et déraisonna honteusement, ou que Justin, à jeun par hasard, pris d'une gravité hautaine, en revint à son langage d'autrefois, qui désormais était burlesque dans sa bouche, Médor l'écoutait peu. Il le laissait fredonner d'une voix rauque, des refrains sans queue ni tête. Il le laissait aussi lire des textes de loi ou déclamer des vers latins avec emphase. Cela lui importait peu. Ce qui l'attirait par une séduction irrésistible, c'était une pauvre relique qu'il avait trouvée dans un coin du réduit de l'ivrogne, à moitié cachée sous la poussière. Un berceau d'enfant, rempli de petites hardes et de jouets, au rideau duquel pendait une photographie qui représentait une jeune mère tenant son enfant dans ses bras, ou plutôt tenant un nuage, trace confuse de l'enfant qui avait bougé en posant. Le berceau de petite reine, disposé en autel par les mains de la Gloriette. Le portrait de la Gloriette pressant sur son cœur petite reine. C'était pour cela que Médor venait le plus souvent qu'il pouvait chez le père Justin, en payant son entrée avec des fonds de bouteille. Quand une fois il était entré et laissait Justin boire, ou lire, ou chanter, et venait s'asseoir dans le coin où était la relique, restant des heures entières en contemplation devant le berceau et devant le portrait. Au moment où Hector et Madame de Chavès passèrent devant Médor, ils allaient encore lentement à cause de la foule. Médor, qui venait de reconnaître le duc de Chavès à la porte de la baraque, mit ses grands yeux ouverts et fixes sur le jeune homme sans même le voir, mais il n'en fut pas de même pour la duchesse, quoiqu'elle eût son voile rabattu. À son aspect, il tressaillit de la tête aux pieds, et tout son sang vint à sa joue. Il se leva droit sur ses pieds, comme si un ressort se fût détendu en lui. Un instant, il resta abasourdi, puis il se frotta les yeux à tour de bras, en répétant plusieurs fois de suite, « Tous deux, lui et elle, est-ce que je dormais? Est-ce que j'ai rêvé ?» Pendant ce temps-là, Hector et sa compagne, pressant le pas, tournaient déjà l'angle de la rue Saint-Dominique. Ce fut tant pis pour ceux qui étaient entre eux et Médor. Médor se jeta, tête la première dans la foule, et passa comme un boulet de canon. Il arriva juste à temps pour voir l'Amazone et son cavalier mettre au trot leur monture et redescendre vers la Seine. Pour la seconde fois, Médor aperçut les traits de l'Amazone et il appuya les deux mains contre son cœur en se disant « C'est elle, c'est bien elle !» Les chevaux eurent beau trotter, Médor n'avait pas les longues jambes de Saladin, mais sa passion était autre et plus forte. Il eût suivi les deux chevaux au bout du monde, et rien n'aurait pu l'arrêter sinon la mort. En arrivant devant la porte cochère de l'hôtel de Chavès, la duchesse, qui n'avait pas prononcé un seul mot pendant toute la route, dit « Au revoir, Hector, ne revenez pas avant d'avoir reçu une lettre de moi. » Ils se séparèrent. Quelques secondes après, Médor, haletant et baigné de sueur, vint tomber sur le pavé dans l'enfoncement de la porte. Il resta quelques minutes à reprendre son souffle, puis il dit « Je ne sais pas comment je ferai pour arriver jusqu'à elle, mais j'arriverai. »